morning edition from NPR News.
Sie sitzen in der Haus.
France Inter, le 18 novembre.
Et ce soir, nous retournons côté russe discuter avec Zoya Svetova, qui est journaliste pour Novaya Gazeta. Le journal a décidé de suspendre ses activités le temps de la guerre. Elle pourra répondre aussi à une tribune de Jonathan Little, qui, dans Le Monde, il y a deux jours, écrit, exhorte aux Russes de se révolter. Le bruit du monde, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet. Vous retrouverez Anastasia, qui est à Kherson. Nous sommes aussi en Pologne, où les Ukrainiens, arrivés maintenant depuis un mois, cherchent du travail. Le bruit du monde, la suite, c'est Sébastien Logeni, qui, sous les radars, a trouvé une Côte d'Ivoire qui étouffe. Le Danemark, qui crée un journal télé pour expliquer la guerre aux enfants. Et un Japonais, donc, dont le métier est très lucratif, mais très peu productif, à 18h50. Pas son genre dans Le Monde. Et Julia Foyce à Madrid, en Afghanistan et aussi à la frontière avec l'Ukraine, avec des femmes et des enfants. À 18h55, c'est Le Monde d'après de Jean-Marc Four. Et cette question, pourquoi les pays du Sud sont nombreux à ne pas prendre position dans la guerre en Ukraine? Le Monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans Le Monde.
Bonsoir Zoya Svetova.
Oui, bonjour.
Et bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes journaliste, votre journal c'est Novaya Gazeta qui a annoncé hier que sa publication était suspendue parce que le temps de la guerre, il vaut mieux être suspendu que disparaître, c'est ce qu'a dit Dimitri Mouratov, qui est aussi le patron du journal et prix Nobel de la paix. Et j'imagine, on va commencer là-dessus, Zoya Svetova, que à la fois c'est un crève-cœur et aussi une question de survie, tout ça en même temps pour vous.
Écoutez, oui, je pense que je n'ai pas le droit de commenter la décision de la rédaction parce que c'est Dmitri Mouratov qui peut commenter. Mais je crois que ils ont bien fait. La rédaction a bien fait parce qu'ils n'avaient pas de choix. Mm-hmm. Parce que vous avez bien compris que soit le journal était anéanti et détruit, soit. Attendez, vous m'entendez?
Je vous entends très très bien, Zoya. Allez-y.
Allô?
Je vous entends parfaitement bien. Je vous entends parfaitement bien. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Moi, je vous entends totalement bien. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y avait pas d'autre solution pour Novaya Gazeta. Et normalement, vous devez m'entendre comme je vous entends. Est-ce que vous êtes là? Alors, on ne l'entend pas, mais c'est pas grave. On va la rappeler, Zoya Svetova, et je vais vous dire pourquoi c'est pas si grave. Parce que ce que nous voulions aussi, c'est qu'elle réagisse à une tribune du Monde qui a été écrite par Jonathan Little, qui est écrivain, qui est scénariste, qui connaît bien la Russie pour avoir couvert notamment la guerre de Tchétchénie, aussi celle de Géorgie, et qui a publié une tribune dans Le Monde il y a deux jours, dans laquelle il dit qu'il faut que les Russes se révoltent, il les exhorte à la révolte. Et ce qu'on lui a demandé d'abord, on l'a eu au téléphone ce matin, c'est si c'est une sorte de sentiment d'exaspération qui était le sien, et voici sa réponse.
Exaspéré, c'est peut-être le bon mot, mais c'est pas seulement maintenant, ça fait très longtemps que je suis un peu exaspéré par la passivité de mes amis russes et des classes moyennes russes en général. C'est un tempérament vraiment très différent des Ukrainiens. Évidemment, il y a des Russes très militants, j'en connais beaucoup aussi, qui eux sont actifs depuis le début du régime de Poutine, qui dénoncent, qui se battent. Je les cite aussi dans ma tribune, les gens de Mémorial, les gens de Novaya Gazeta, et ainsi de suite. Mais c'est une minorité tellement infime face à la masse du pays, et surtout la masse des classes moyennes et éduquées, que c'est assez désespérant. À partir de l'an 2000, moi je vivais à Moscou à l'époque, je suis parti finalement mi-2003, à la fois parce que je trouvais que l'atmosphère devenait déjà à l'époque irrespirable, et aussi parce que l'apathie et la passivité de mes amis m'affligeaient terriblement, il y a presque 20 ans.
Et la réponse qu'on entend encore aujourd'hui, alors il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis dans cette fameuse classe moyenne, on parle de peut-être même jusqu'à 150 000 personnes, est-ce que c'est une fuite en fait?
Bah, d'un côté, ils ont absolument raison de partir, il n'y a aucun espace pour eux, ni pour vivre, ni pour s'exprimer, ni pour quoi que ce soit. D'un autre côté, d'un point de vue global, c'est une tragédie, puisque c'est les meilleurs qui partent, forcément. Les plus intelligents, les plus éduqués, les plus ouverts d'esprit, les plus pro-démocratie, tous les gens qui veulent un avenir normal pour leur pays, c'est eux qui partent. Et donc, il ne restera que les conservateurs ou les gens qui s'en foutent un peu. Mais en fait, ça fait le jeu de Poutine, quelque part, ce départ de masse.
Et en même temps, et c'est ce que chacun vous répondra, il y a eu 15 000 arrestations, autant de gens qui ont osé aller manifester, autant de gens qui savent aussi que s'ils prononcent même le mot « guerre », ils sont passibles de 15 ans de prison. Donc comment on fait dans ce pays ultra-verrouillé pour faire son Maïden, comme vous dites ?
Ben, c'est effectivement un peu tard. Il aurait fallu le faire en 2012. Ils ont essayé, ils l'ont fait pendant quelques mois, et puis dès que le verrou a été fermé un tout petit peu, ils sont rentrés à la maison, ils se sont laissés abattre et découragés, et ils ont baissé les bras. Mmh. Et là, c'est là où on voit vraiment la différence avec les Ukrainiens, parce qu'en 2014, deux ans plus tard, dans une situation un peu comparable, pareil, le régime Yanukovych a essayé la répression policière, il a envoyé les policiers contre Maïdan, et les Ukrainiens, eux, sont battus. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné, en mettant leur corps en avant pour le combat.
Mais est-ce que vous diriez que en Russie, la révolte, s'il y avait révolte, est-ce qu'elle viendra vraiment de ces classes moyennes-là, ou est-ce qu'elle viendra des campagnes, des plus pauvres, de ceux qui vont se rendre compte beaucoup plus vite et beaucoup plus durement et âprement que le frigidaire est vide ?
C'est ce que j'ai écrit dans la tribune. C'est pas tellement les campagnes en elles-mêmes, parce que les campagnes sont complètement atomisées et noyées dans la pauvreté et l'alcool. Ça, c'est une constatation cruel, mais je dois dire que les ayant visités, c'est assez sociologiquement vrai. Mais les villes moyennes, surtout. Il y a toute une petite classe moyenne, basse, mais qui quand même a pu vivre mieux sous Poutine, qui quand même pouvait aller passer deux semaines par an en Turquie ou en Espagne, manger correctement, meubler leur appartement, avoir une vie à peu près décente. Et en retour, voter pour Poutine, parce que ils considéraient que c'est lui qui leur apportait ce qu'ils souhaitaient. Si maintenant ce pacte social s'effondre, là il y aurait une grogne sociale qui peut se traduire localement par des mouvements de masse. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu des mouvements de masse au niveau local ces dernières années, on les voit. Ils font très très peur au régime, mais justement le régime prend beaucoup plus des pincettes avec ces gens-là. Généralement, ils répondent en les arrosant, ils donnent du fric pour les calmer, et après ça se calme. Mais donc, ce que je pense, c'est que si ça commence comme ça localement, à droite, à gauche, ça ne mènera pas très loin. S'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas une idée politique derrière pour rassembler tous ces gens et faire comme ont tenté de faire les gens en Biélorussie. Mm-hmm. La candidate, Tsikhanouskaya, et ses équipes qui considéraient qu'ils avaient gagné l'élection, ils ont pu utiliser Internet pour fédérer les mouvements de contestation qu'il y avait partout dans le pays et en faire un vrai mouvement de masse. Ils ont perdu quand même. Mais au moins, ils ont essayé.
En Russie, le grand opposant, c'est Navalny. Il est en prison, probablement pour très très longtemps. Donc comment il peut s'initier ce mouvement de masse que vous appelez de vos voeux si on ne sait pas derrière qui on est, en fait, derrière qui on se regroupe ?
Je n'ai pas de réponse à cette question. Navalny a choisi de rentrer en Russie plutôt que de mener l'opposition depuis l'étranger. Il savait très bien qu'il allait aller tout de suite en prison, donc c'est vraiment sa décision. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça prive effectivement tout mouvement d'opposition de un peu leur leader naturel aujourd'hui. Il faudra que quelqu'un d'autre émerge.
Ouais. L'autre difficulté, c'est s'informer. Évidemment, la masse de désinformation est tombée littéralement sur la Russie. On sait bien que Novaya Gazeta a suspendu sa publication, et s'ils se suspendent, c'est précisément pour ne pas être interdit, donc pour pouvoir avoir un avenir. Donc ça veut dire de toute façon en plus qu'il n'y a même plus d'organes pour lancer, pour envoyer des messages. Est-ce qu'il y a encore quand même cette possibilité selon vous ou pas ?
Encore une fois, ça dépend de qui on parle. Les classes moyennes et l'intelligentsia de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont parfaitement capables d'installer des VPN sur leur téléphone ou leur ordinateur pour surfer sur les sites étrangers, mais aussi les sites russes basés à l'étranger, comme Medusa, qui a publié ma tribune dont vous parliez tout à l'heure en russe. Ils sont basés en Lettonie, ils publient ce qu'ils veulent. Même s'ils sont bloqués en Russie, il y a quand même 300 000 lecteurs par article. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens de contournement. Ça, c'est un problème technique.
Une toute dernière chose, quand vous parlez effectivement de cette classe moyenne, ceux qui sont déjà partis, vous dites ils partent avec un vrai sentiment de honte. De toute façon, je ne vois pas d'autre choix, mais je ne suis pas très fier de moi. Qu'est-ce qu'on en fait, ça, en fait ? Est-ce que c'est un ferment de révolte, ça, ou au contraire, un ferment d'apathie ?
Je ne saurais pas vous le dire. Les Russes n'ont jamais très bien fonctionné en exil. Ça, c'est une donnée historique. La plupart des Russes, en dehors de leur pays, se sont très abattus. Les gens qui sont partis, ils vont se disperser. C'est des gens absolument brillants, éduqués, talentueux. Donc ça va essaimer intellectuellement dans le monde, mais ça ne porte pas que ça va donner grand-chose pour le combat.
Jonathan Little, l'écrivain et scénariste qui résume pour nous donc cette chronique publiée dans Le Monde il y a deux jours. Je suis contente qu'on ait retrouvé Zoya Svetova. Vous êtes bien là, Madame Svetova ?
Oui,
merci beaucoup. Il vous dit, Jonathan Little, il vous dit, faites votre Maïdan, révoltez-vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Écoutez, j'ai lu cette tribune et moi, j'étais vraiment étonnée et scandalisée parce que d'abord, je vais essayer d'être tranquille et calme. Et donc, la première question, si j'avais devant moi Monsieur Little, j'aurais demandé qui était son interlocuteur, à qui s'adressait-il, parce que il dit « mes amis russes, voilà, c'est votre Maïdan ». Donc, je n'ai pas très bien compris qui étaient ses amis, parce que d'après que je comprends, ses amis, ce sont les gens d'Intelligentsia, des gens de Memorial, de Novaya Gazeta, les gens de l'opposition, du groupe Navalny et les autres, mais pourquoi il les reproche de ne pas faire leur Maïdan, parce que les Russes ont essayé de le faire. Mmh. Et dans l'interview à l'antenne tout à l'heure, il dit oui, ils ont essayé en 2012, mais ils n'ont pas gagné. Et donc, ils laissaient les bras et voilà ce qu'ils n'ont pas chassé Poutine. Et donc, maintenant, il dit mes amis, mais il demande que les Russes chassent Poutine, mm-hmm. et que les Russes font tomber le régime de Poutine. Mais comment ils peuvent le faire? La question que je voulais lui poser, il dit « L'organisation de Navalny a été liquidée, mais d'autres peuvent être mises sur pied, plus informelles, plus décentralisées, mais c'est n'importe quoi. » Comment est-ce que… Je voulais lui demander… Quand il était la dernière fois en Russie, de quelle organisation informelle parle-t-il ? Est-ce qu'il est au courant que toutes les organisations des ONG russes, presque toutes les organisations efficaces, étaient considérées comme les agents étrangères ? Mmh. L'agent étranger, ça veut dire que ces organisations, ils ne peuvent pas exister dans l'espace légitime, c'est-à-dire qu'ils sont devenus comme des juifs qui portaient pendant l'état de fascisme, mmh. qu'ils portaient les étoiles jaunes. Être agent étranger, donc il dit, vous pouvez créer les organisations informelles. C'est impossible.
Zoya Svetova dit, c'est trop tard, il fallait le faire avant, il y a eu une fenêtre d'opportunité. Il parle notamment des manifestations pendant la période de 2011, il y avait cette opportunité et elle n'a pas été saisie.
Ah oui, mais qu'est-ce qu'il sait ? Est-ce qu'elle était saisie ou non? Moi, par exemple, avec mes enfants, mes quatre enfants qui sont journalistes, on sortait dans la rue avec nos amis. Tous, on est sortis dans la rue. On protestait contre le régime Poutine. Et après, il y avait toutes les répressions. Et maintenant, les gens ne peuvent pas sortir. Ils demandent aux gens de sortir dans la rue. Et vous, lui, avez dit que 16 000 personnes qui étaient sorties après le début de l'opération spéciale en Ukraine, tous ces gens-là étaient arrêtés. Ils ont passé les nuits dans les bureaux de police. Certains d'eux étaient condamnés à 30 jours de bureau de police. Et si vous avez sorti trois fois dans la rue et vous étiez trois fois condamné à des peines, si vous sortez quatrième fois, vous aurez la peine pénale, c'est-à-dire vous aurez la prison ferme. Et donc Jonathan Little, un écrivain célèbre, je ne sais pas, le lauréat du prix Pulitzer, si je ne me trompe pas, propose aux Russes, il s'adresse à la classe middle class, à la classe moyenne, il leur propose de se mettre en prison.
Est-ce que…
Pourquoi
Zoya Svetova…
Quel droit est là ? Excusez-moi, quel droit est là de leur proposer ? Parce que c'est tout à fait inutile, parce que le régime de Poutine peut tomber, pas grâce à ces manifestations de ces 16 000 personnes qui vont sortir de toute la Russie. Il faut des millions,
Et le fait d'imaginer qu'il peut tomber, Zoya Svetova, est-ce que de toute façon vous vous dites non, en l'état, ça n'est pas possible. Les choses devront se passer d'une manière différente, mais faire tomber, c'est impossible. Ou est-ce que vous dites que ça doit venir d'ailleurs, de l'entourage de Poutine éventuellement, ou par d'autres biais?
Je crois, comme beaucoup de gens en Russie et beaucoup d'experts, je pense, experts des pays occidentaux, ils pensent que le régime de Poutine peut tomber grâce à un schisme dans l'entourage de Poutine. Mais le problème que nous, on n'a pas d'informations, ni les Russes, ni les étrangers, peut-être le contre-espionnage américain, peut-être ils ont ces sources d'informations et ils savent ce qui se passe dans le bunker de Poutine. Peut-être ils savent, moi je ne le sais pas. Mais je sais une chose, qu'aujourd'hui ce n'est pas le temps de Maïdan et donc je ne comprends pas pourquoi lui, il écrit cette tribune et après dans votre interview, il dit c'est trop tard de les appeler à faire l'autre Maïdan. Et la question se pose, alors, à quoi bon il a écrit cette tribune? Pour moi, c'est humiliant, parce que mon peuple, il soit bien bon ou mauvais, mon peuple, il n'est pas, comment dire, il n'est pas dit, il ne fallait pas lui dire ça. Sortez, faire votre Maïdan, vous n'avez rien fait, etc., etc. Le peuple russe, c'est tout à fait différent. Il y a différentes, si vous voulez, les différentes classes, différents types de gens en Russie. Mais les gens qui ont pu faire quelque chose, ils ont essayé à partir de 2011 jusqu'à 2021, quand Navalny est revenu en Russie, il y avait des milliers de gens qui sont sortis dans la rue pour protester contre son arrestation. Et ces gens-là étaient mis en prison.
Zoya Svetova,
ils ne veulent plus.
Vous avez décidé de rester, on sait pourquoi, on sait ce qu'est votre vie, les engagements qui sont les vôtres. Est-ce que vous dites à ceux qui ont décidé de partir, on dit qu'il y en a 130, 140 000, est-ce que vous leur dites, vous avez bien fait, parce qu'il n'y a pas d'autre choix et vous avez bien fait de partir?
Je vais vous expliquer une chose. Les gens qui sont partis, ce sont pour la plupart les jeunes. Ce sont les jeunes de 18 jusqu'à 35 ans, je pense, peut-être 40, mais surtout c'est de 18 à 35 ans. Ce sont les jeunes qui ont filé de la menace, du danger de la prison, du danger de service militaire, il aurait pu être appelé sous les drapeaux. Ils sont filés de la Russie parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans un pays isolé, dans un pays fermé où il n'y a pas d'internet, où chaque dissidence, chaque opposition pourrait être considérée comme une traîtrise de pays, comme la trahison du pays et qui était menacé de 15 ans de prison. Ces jeunes, ils ont raison parce qu'ils doivent commencer et faire une nouvelle vie. Et j'en suis sûre qu'ils vont revenir, que ce ne sera pas une migration comme c'était dans les années 70, de siècle, de siècle 20e siècle.
Ils vont revenir,
non, c'est pas ça.
Ils vont revenir, dites-vous, Zoya Svetova, et on a été heureux de vous entendre réagir, en tout cas, à cette tribune qui a aussi été traduite en russe et que d'autres, sans doute, vont lire et pourront commenter à leur tour. Je vous remercie beaucoup, vraiment, de votre passage dans Un jour dans le monde et de votre réaction. Merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet avec Anastasia qui est à Kherson. Nous irons aussi en Pologne où les réfugiés arrivés cherchent du travail. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, c'est vous Sébastien Logénie.
Nous irons à Abidjan en Côte d'Ivoire avec un mur de béton qui protège de l'urbanisation sauvage un parc unique au monde.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, à peine vert de nouveau fermé. Les jeunes Afghans n'ont toujours pas le droit d'aller à l'école.
Et le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Nous allons voir que l'Occident est d'une certaine manière isolé lui aussi sur l'Ukraine. Les pays du Sud sont très nombreux à ne pas prendre position sur le conflit.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Canada. Voici Arcade Fire de Lightning. C'est dans la playlist d'Inter. Un extrait de leur album apparaîtra en mai. Fourth place and be playing tonight on a broken radio. Thought we reached the mountaintop, but now we just feel so low. The sky is breaking open, we keep hoping, in the distance we'll see a glow. Lightning light our way, till the black sky turns back into gold. We can. soir. On est heureux de retrouver les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Vous recevez toujours les messages vocaux des Ukrainiens et Ukrainiennes qui racontent ce qu'ils vivent depuis plus d'un mois maintenant. On ne les lâche pas, on les suit l'un après l'autre. Avant de renouer d'ailleurs juste après avec le reportage, ce sera juste après vous. Ce soir, on retrouve Anastasia, Caroline.
Oui, c'est la cinquième fois qu'on l'entend ici. Elle a fêté ses 28 ans dans sa ville de Kherson, sous occupation russe. Elle observe sa ville qui change par la fenêtre.
Aujourd'hui, j'ai décidé de laver les vêtements parce que quand même, la vie continue. On est à la guerre depuis déjà 33 jours, il me semble. Je suis pas sûre. J'ai arrêté de compter, en fait. Il y a les gens qui prennent leur voiture et qui essayent de quitter la ville. Et je connais plusieurs copines qui ont quitté la ville parce qu'elles ont des petits bébés. Elles racontent qu'il y a à peu près 5 blockposts russes qui demandent vous allez où. Parfois, elles regardent ce qu'il y a dans la voiture. S'il y a un homme dans la voiture, ils demandent d'enlever leurs vêtements pour voir s'ils ont des tatouages pro-ukrainiens. On regarde les mains s'il n'y a pas de traces de pistolet. La route de notre ville à une autre ville qui a normalement 60 ou 80 km peut prendre vers 15 heures. Nous, on n'a pas de voiture. Et c'est pas vraiment possible de trouver une personne qui pourrait le faire, même pour l'argent.
Cette semaine, je vois plus de transports publics, moins de transports militaires des Russes. Comme on est à la fin de mars, maintenant il y a beaucoup plus des oiseaux. Et je vois aussi des abeilles ou des guêpes, je ne suis pas sûre. Parfois, j'ai même vu des moustiques dans notre appartement. Ça veut dire que le printemps est déjà complètement arrivé. Mais je n'ai pas la possibilité de quitter la maison et d'en profiter dans le parc. Je dois rester chez moi et juste regarder par la fenêtre.
On est content de l'entendre, on est content de se rendre compte qu'elle a l'air un peu plus sereine, relâchée, un peu plus sereine, Anastasia. On espère qu'elle reviendra nous voir. Évidemment, on rappelle que les 17 notes vocales d'Ukraine, Caroline, elles sont disponibles à la réécoute sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France aussi.
Merci.
À demain, Caroline.
Le 18-20.
Et on renoue ce soir avec le reportage dans Un jour dans le monde. Le bruit du monde est en Pologne, le pays voisin. Plus de 2,3 millions de personnes qui ont rejoint ce pays et qui se retrouvent donc en première ligne dans l'accueil des réfugiés. Certains d'entre eux arrêtent leur route. Ils ont décidé de rester, de trouver du travail, une main-d'œuvre bienvenue sur le marché du travail polonais, même si tout cela reste très incertain. Et c'est Sarah Bakaloglou qui raconte.
Svitlana Verbora tient à la main quelques CV et son portable de l'autre. Cette Ukrainienne de 54 ans a fui la région de Kiev et ce matin-là, elle participe à une session d'information pour trouver un travail au centre multiculturel de Varsovie. Plus d'une dizaine de femmes sont présentes, prêtes à trouver un travail le plus rapidement possible.
J'ai vraiment envie de trouver un emploi. J'ai fait des études supérieures, j'ai un diplôme d'une université polytechnique, un autre en finance et en économie. J'espère que mes compétences vont être nécessaires ici, mais en réalité, je suis prête à accepter n'importe quel emploi afin de travailler rapidement. Je regarde sur des sites, j'ai eu un entretien pour travailler chez Carrefour Express. Je suis très active. Je refuse de reposer sur la générosité des Polonais. Je ne veux pas utiliser d'aide sociale. Je veux trouver un travail et avoir une vie normale.
Cette Ukrainienne confie vouloir apprendre le polonais afin que la langue ne soit pas un obstacle. Pour l'instant, les conséquences à long terme pour le marché du travail polonais sont encore incertaines car on ne sait pas combien de temps les Ukrainiens vont rester et combien vont encore arriver. Mais cette nouvelle main-d'œuvre dans un pays en pénurie chronique de travailleurs dans certains secteurs peut être bienvenue. Avant la guerre, près d'1,5 million d'Ukrainiens travaillaient en Pologne, en majorité des hommes. Désormais, ce sont principalement des femmes et des enfants qui arrivent. Pavel Jamro de l'agence de recrutement Urban Recruitment, spécialisé dans la main-d'œuvre ukrainienne.
Oui, je suis optimiste, mais est-ce que le marché du travail va réussir à absorber cette quantité de personnes qui arrivent en Pologne ?
Certes,
les usines se sont adaptées, les entrepôts sont réorganisés pour donner du travail aux femmes. Avant, c'est sûr que le travail des femmes pouvait être problématique, car les emplois n'étaient pas forcément adaptés. Mais aujourd'hui, les usines ne rechignent plus à les embaucher.
Les emplois trouvés par cette agence, comme l'emballage de paquets ou le magasinage, ne demandent pas de qualifications particulières. Selon Pavel Jamro, la difficulté sera surtout de trouver des logements. Il s'inquiète aussi de la pénurie possible de main-d'œuvre dans certains secteurs où les hommes ukrainiens pourront cette fois être difficilement remplacés. En effet, des dizaines de milliers d'entre eux travaillant en Pologne sont rentrés en Ukraine se battre. Un défi important, selon Anna Sitche, économiste senior au sein de Politica Insights.
On one hand, some of them will find jobs.
D'un côté, certaines des femmes ukrainiennes pourront trouver des emplois dans l'agriculture, les services et dans certaines branches de l'industrie. Mais le secteur des transports va beaucoup souffrir. Les Ukrainiens y composaient un tiers de la main-d'œuvre. Et dans ce secteur, les femmes ne pourront pas remplacer les hommes. Car si vous avez des enfants ou des personnes âgées dont vous devez vous occuper, vous ne pouvez pas accepter un travail qui réclame que vous soyez plusieurs semaines loin de chez vous.
De manière générale, la question de la garde d'enfants se pose pour ces femmes réfugiées si elles souhaitent trouver un travail. Pour l'instant, 17 000 Ukrainiennes ont déjà été embauchées depuis le début de la guerre, selon le gouvernement polonais.
C'est Sarah Bakaloglou pour le reportage. Merci beaucoup et à très bientôt. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Sébastien, nous sommes là dans les rues encombrées et polluées d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Abidjan où le poumon vert de la ville est menacé par l'urbanisation sauvage.
Et l'on ne parle pas ici d'un petit parc, Fabienne, ou même d'un bois en bordure de la ville, comme Vincennes. La capitale ivoirienne est en fait la seule grande ville au monde, avec Rio de Janeiro, à posséder en son sein une vraie forêt primaire. 3500 hectares, 4 fois le bois de Boulogne. On l'appelle le parc national du Banco. Forêt classée depuis un siècle, essentiellement pour absorber le CO2 produit par les 4,5 millions d'habitants d'Abidjan. Mais ce poumon vert est donc vulnérable, de plus en plus grignoté par les constructions anarchiques illégales et par les riverains qui n'hésitent pas non plus à y abattre des arbres pour se chauffer ou à chasser les animaux, si bien que les autorités ivoiriennes ont décidé d'ériger une véritable barricade tout autour, comme le confirme le responsable du parc.
Il y a l'urbanisation, des nouveaux quartiers qui se créent, qui ont tendance à empiéter sur les limites du parc. D'où l'idée d'ériger des pans de clôture pour protéger donc l'assise foncière du parc.
Alors concrètement, c'est un mur de béton qui est en cours de construction à Abidjan. Pas très beau, mais efficace. Un mur long de 10 km qui devrait être achevé d'ici 3 mois. Une muraille de Chine, comme l'ont déjà renommé avec humour les habitants.
Au Danemark, un journal télévisé pour parler de la guerre aux enfants.
Ça s'appelle Ultranit, Ultra Nouveau. C'est une émission quotidienne de 10 minutes sur l'actualité produite par la télévision publique danoise. Un JT à destination des 9-14 ans et qui fait un travail compliqué depuis la fin du mois de février, faire comprendre un conflit armé aux plus jeunes.
Welcome to
Ultranet.
Les images montrées à l'écran sont évidemment très choisies, jamais de sang ni de combat, mais des chars russes, des explosions lointaines, des colonnes de réfugiés. L'idée, c'est de décrypter sans effrayer, décrypter des informations qui arrivent de toute façon sur les réseaux des jeunes ados, TikTok, Snapchat, Instagram, images brutes, sans filtre. Là, on fait un vrai travail d'explication. Le mantra d'Ultranit, c'est que toutes les informations peuvent être données aux enfants. La question, c'est simplement de savoir comment le faire. Exemple, pour expliquer la notion de cesser le feu, eh bien une main se lève, appuie sur un bouton pause d'une télécommande pendant que des flèches sur une carte indiquent que les gens peuvent partir du pays. Et puis autre exemple, l'OTAN est appelé le club des pays qui ont décidé de rester ensemble en cas de problème. Ils sont 40 000 enfants à suivre la chaîne YouTube de l'émission Une goutte d'eau, mais qu'il faut saluer.
Allez, on termine avec un métier dont seuls les Japonais ont le secret.
Ça pourrait s'appeler payer à ne rien faire, et ce métier existe, Fabienne. C'est un habitant de Tokyo de 38 ans qui en a eu l'idée il y a 4 ans. Il s'appelle Shoji Morimoto. Il loue sa présence à des particuliers pour ne rien faire de particulier. Il n'offre aucun service précis. Il peut boire, manger, écouter, discuter, rien de plus. Résultat, il croule sous les demandes de Japonais qui veulent juste partager un moment avec une autre personne pour tromper leur ennui, leur solitude. Ce jour-là, par exemple, quand le Washington Post l'a suivi pour faire un reportage, eh bien Shoji Morimoto accompagnait une jeune étudiante pour manger des nouilles dans un centre commercial, et ça donne ça. Voilà, pas un mot, pas même
c'est
un regard.
C'est terrifiant, votre histoire.
La scène est surréaliste. Shoji mange ses nouilles devant une inconnue qui va lui payer son plat, son déplacement et lui donner un généreux pourboire quand même, au moins 75 euros. Ouais. La semaine dernière, il a été invité dans un hôtel 5 étoiles par un homme qui s'offre un séjour dans un hôtel 5 étoiles une fois par mois comme un hobby. Shoji l'a donc simplement écouté en parler pendant 3 heures. Il est aujourd'hui une petite célébrité au Japon. 270 000 abonnés sur Twitter. On l'invite à la télé pour raconter son histoire. Il a même inspiré une série télé depuis le mois d'avril dans laquelle il raconte que c'est en lisant Nietzsche qu'il a eu l'inspiration. Shoji Morimoto, un philosophe des temps modernes.
Ah bah Nietzsche, tout de suite, ça rend les choses nettement plus sérieuses. Nous vivons une époque moderne, comme on disait sur Inter à une époque. Sébastien, à demain, vous reviendrez car vous n'êtes pas payé à ne rien faire. Et vous repartez avec John Legend's Who Did That To You, cet extrait de la BO de Django Unchained de Tarantino.
Their vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. My wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah.
That to you, demande John Legend sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres gens, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par l'inquiétude des ONG aux frontières de l'Ukraine.
En 5 semaines, ils sont près de 4 millions à avoir dû quitter leur pays pour échapper aux bombardements russes. Et ça, ce sont les derniers décomptes du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Parmi ces personnes, bien sûr, 90% de femmes et d'enfants, les hommes de 18 à 60 ans ayant l'interdiction de partir parce que l'obligation de rester mobilisable. Ces femmes, comme ces enfants, arrivent avec rien ou si peu dans des pays dont ils ne connaissent pas grand-chose, isolés, souvent sans argent. Ils sont des proies évidentes pour tout type de criminels, insiste l'Agence des Nations Unies. Les ONG présentes à la frontière signalent les premières disparitions de femmes et d'enfants, vraisemblablement victimes de traite, d'exploitation ou d'extorsion en tout genre. Dans le chaos ambiant, il est extrêmement difficile pour les bénévoles d'identifier, de contrôler chaque personne proposant aux réfugiés leur aide. Impossible donc de vérifier la légalité de leurs propositions. L'une des solutions envisagées par l'UE serait de mieux répartir les flux migratoires pour éviter notamment l'engorgement en Pologne qui, rappelons-le, à elle seule accueille plus de la moitié de ses populations. Un plan en 10 points vient d'être adopté par les ministres de l'Intérieur des 27. Il passe notamment par la coordination des moyens pour lutter contre la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des réfugiés. En attendant sa mise en œuvre, ce petit élex, les femmes trans, elles, sont refoulées à la frontière. La question de la transidentité en Ukraine est encore balbutiante. Changer la mention
l'immigration de gens sur ces papiers reste mission quasi impossible. Vous pouvez donc avoir fait tout votre parcours de transition. S'il vous reste un M sur la carte d'identité, vous devrez rester en Ukraine. Que vous le vouliez ou non, vous êtes un homme et vous devez donc vous tenir prêt pour l'armée.
Et pendant ce temps, Julia, en Afghanistan.
Vous vous souvenez quand on s'en était parlé ici, de la réouverture des collèges et des lycées pour les jeunes afghanes? Eh bien, ça aura duré quelques heures, tout au plus. Les talibans, prétextant une organisation pratique pas encore aboutie, sont revenus sur leur décision le 23 mars, soit le jour même de la rentrée. Trois jours plus tard, samedi, les femmes étaient donc de nouveau dans la rue pour réclamer un droit élémentaire à l'éducation. C'est une marée humaine, des centaines de femmes voilées de blanc qui avancent au nez et à la barbe des talibans. Quelques hommes, quelques garçons avec elles, elles ont un courage hallucinant. Ces femmes, elles risquent gros à manifester, mais elles le font et ne lâchent rien depuis 6 mois. Les plus jeunes, elles, sont privées d'école depuis près de 200 jours maintenant. En réaction, Washington a suspendu toute discussion avec Kaboul, suspension qui pourrait faire son effet puisqu'aujourd'hui, les États-Unis assurent que le régime fera bientôt machine arrière. Peut-être, quoi qu'il en soit. Sur d'autres fronts. Et malgré toutes leurs promesses, les talibans donnent un nouveau tour de vis. Les compagnies aériennes nationales ont désormais l'interdiction d'embarquer des femmes seules sur leur vol. Si elles veulent voyager, les Afghanes devront le faire en compagnie d'un membre masculin, évidemment, de leur famille.
Et ça, en revanche, ça se passe tout près de chez nous.
9 000 à 20 000 personnes, suivant les estimations, rassemblées pour marteler « l'avortement n'est pas un droit ». Si, si, ça s'est passé dans les rues de Madrid dimanche, organisée par la plateforme Oui à la vie. C'était une manifestation contre un projet de loi du gouvernement socialiste, projet destiné à faciliter l'accès aux hôpitaux publics pour toute femme souhaitant avorter. Et si je dis toutes, c'est que le texte concerne aussi les mineurs de 16 et 17 ans qui, aujourd'hui encore, doivent fournir une autorisation parentale pour avoir droit à une IVG. Cette mesure, donc, devrait être abrogée, tandis que serait pénalisée pour harcèlement les manifestations anti-avortement tenues devant les cliniques et le pratiquant. Le débat public est ouvert, il s'annonce explosif et nous rappelle combien rien en matière de droits des femmes n'est jamais gravé dans le marbre.
Julia Foyce, chaque mardi dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Julia.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Jean-Marc, après 33 jours de guerre, de nouveau pour parler, ont donc débuté entre Russes et Ukrainiens. Ce soir, vous voulez attirer notre attention sur la grande prudence avec laquelle tous les pays du sud de la planète regardent ce conflit. Ils sont très nombreux à ne pas vouloir choisir entre la Russie et l'Occident, et c'est votre monde d'après.
Oui, attention à l'illusion d'optique. Vu d'Europe occidentale, on est tenté de croire que le monde entier se dresse face à une Russie isolée, seulement soutenue par les dictateurs de la pire espèce, le Syrien Assad, ou le Nord-Coréen Kim Jong-un. Cette vision qui légitime un discours du style le bien contre le mal, cette vision est tout bonnement fausse. Oui, la Russie est isolée, c'est vrai, mais l'Occident aussi, il est uni, oui, mais seul. Tous les pays du Sud, ou presque, regardent ce conflit comme interne à l'Europe et conservent beaucoup de distance. Il y a au moins deux indicateurs de cette prudence. Le premier, c'est quand même le nombre de pays à s'être abstenus lors des deux votes à l'ONU condamnant l'agression russe. 35-40 à chaque fois, dont près d'une vingtaine de pays d'Afrique, l'Algérie, le Sénégal, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, plusieurs pays latino-américains ou d'Asie centrale. Le second indicateur, plus révélateur encore, c'est la liste des États ayant enclenché des sanctions contre Moscou. En gros, tous les pays occidentaux, plus leurs alliés asiatiques, le Japon, la Corée du Sud, et c'est tout. Personne d'autre. Il n'y a pas de sanctions de la communauté internationale contre la Russie, sauf à considérer que la communauté internationale, c'est uniquement l'Occident.
Alors comment expliquer cette prudence, Jean-Marc, des pays du Sud?
Il y a bien sûr un sentiment d'éloignement géographique vis-à-vis du conflit. Cette guerre n'est pas la nôtre, mais ça n'explique pas tout. Plus important, les accords de nombreux pays du Sud avec la Russie. Accords militaires, d'abord, Moscou fournit des armes et des systèmes de défense antiaériens de nombreuses capitales, New Delhi et l'Inde par exemple. Aussi, des hommes, des mercenaires de la compagnie Wagner, on pense au Mali et à la Centrafrique où leur présence est avérée. Accords économiques, ensuite exportation de pétrole et de gaz. L'Europe est bien placée pour le savoir, mais elle n'est pas la seule concernée. Échanges technologiques et commerciaux avec le Moyen-Orient, les pays du Golfe, on le disait hier, servent même de refuge aux oligarques russes. Et puis bien sûr, les exportations de céréales, le blé, le maïs, l'orge, des pays comme l'Égypte, le Liban, la Mauritanie voient l'essentiel, parfois la totalité de leur blé importé de Russie ou d'Ukraine. Parfois, la dépendance économique peut prendre aussi des chemins plus indirects. De nombreux pays du Sud dépendent désormais financièrement de la Chine. Et Pékin, allié politique de Moscou, fait pression sur ces pays pour qu'ils ne suivent pas les consignes occidentales.
Donc c'est quoi? C'est une histoire de gros sous?
Alors, c'est pas seulement une histoire de gros sous. Il y a un autre paramètre plus dérangeant pour Européens et Américains. Les pays du Sud se taisent, refusent de prendre parti, non par soutien à Poutine, mais par défiance vis-à-vis de l'Occident, perçu comme une puissance impérialiste qui veut imposer sa loi. Ce sont les séquelles à la fois du colonialisme en Afrique, du soutien passé de Washington aux dictatures latino-américaines et des interventions armées récentes très contestables, par exemple en Irak ou en Libye, sans oublier la controverse au Mali sur l'efficacité de l'opération française Barkhane. L'argument russe selon lequel l'expansionnisme de l'OTAN est la cause du conflit en Ukraine, cet argument est abondamment repris en Afrique ou en Amérique latine, en Argentine, au Mexique, au Pérou, etc. Et puis une autre critique s'y ajoute, le deux poids deux mesures des Occidentaux vis-à-vis des réfugiés. Bras ouverts, on le voit pour les Ukrainiens, portes fermées pour les Syriens, les Afghans ou les Africains du Sahel, qualifiés d'ailleurs, le vocabulaire a son importance, qualifiés d'ailleurs de migrants et non de réfugiés.
Et cette prudence, Jean-Marc, c'est aussi la confirmation d'un monde multipolaire.
Oui, pour les pays du Sud, il n'y a plus à choisir entre l'Est et l'Ouest, ça c'est un concept du passé, il n'y a même aucune volonté de choisir. Moscou et Washington constituent souvent, vu du Sud, deux modèles également périmés. Pour de nombreux gouvernements africains, asiatiques, latino-américains, moyen-orientaux, le modèle le plus séduisant est ailleurs, c'est la Chine, avec son mélange d'autoritarisme politique et de prospérité économique. Alors certes, il en va différemment des populations, l'aspiration au pluralisme et à la liberté d'expression reste forte, mais le rapport annuel d'Amnesty International, publié aujourd'hui, le montre clairement, la démocratie est en recul dans le monde, l'Occident est donc soudé, oui, mais il n'est pas forcément séduisant.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne, on va changer d'ambiance intégralement. Vous allez voir, on va parler des NFT, figurez-vous. Ne partez pas, la suite, c'est aussi le journal d'Hélène Filly. À tout de suite.